Chapitre 25. Isabelle se réveilla. Un court instant, elle se crut chez elle, mais une vive douleur à la main droite la ramena à la dure réalité. Tout revint en bloc, la table, le russe s'avançant avec son couperet. Elle se mit à hurler. Elle regarda sa main, elle était enveloppée d'un pansement. Elle tâta avec sa main gauche. Elle comprit. Il lui avait coupé l'auriculaire. Elle s'évanouit à nouveau. Combien de temps resta-t-elle dans cet état second? Quand elle reprit à nouveau connaissance, elle tremblait de tous ses membres. Tout espoir l'avait abandonnée. Elle allait mourir dans cette pièce ignoble, seule, loin de sa famille et de ses amis. Personne ne viendrait la délivrer. Elle pleura doucement, puis se mit en boule pour essayer de se réchauffer. La porte s'ouvrit. Elle se plaqua contre le mur. Son martyr allait reprendre. Le colosse qui l'avait maintenu sur la table posa à côté d'elle un bol de café chaud et un paquet de gâteaux, puis sortit. Elle n'osait y croire. Ce n'était pas pour cette fois-ci. L'odeur du café lui chatouilla les narines. Son estomac vide se crispait. Elle s'assit, empoigna le bol, grimaça. Le poids du bol la faisait souffrir. Elle serra les dents. Elle n'avait jamais connu quelque chose d'aussi bon. Le café s'écoulant lentement dans son corps. Un peu de douceur. Elle empoigna le paquet de gâteaux. Elle en déchira péniblement l'emballage avec les dents et enfourna une dizaine de galettes avant d'être rassasiée. Elle se recoucha, serrant contre sa poitrine sa main mutilée. Elle n'osait décoller le pansement imbibé de sang. La nourriture lui avait redonné des forces, mais elle se sentait comme un rat emprisonné dans son trou. Attendre, elle ne pouvait qu'attendre. Attendre quoi? Elle guettait le moindre bruit. Toute son attention était concentrée sur la porte. Tout son avenir dépendait de cette porte. Un bruit de fusillade la fit sursauter. Elle se dressa sur le lit. Que se passait-il? La porte s'ouvrit brusquement. Un noir, un pistolet à la main, balaya la pièce des yeux et se dirigea vers elle. « Hello, bébé! Debout, venez avec moi !» Interloquée, elle ne sut quoi répondre. Déjà, l'homme l'entraînait par le bras. Dans la pièce où on l'avait interrogé, c'était le carnage. Le russe, celui qu'elle prenait pour le chef, gisait sur le sol, la tête éclatée. Dans la pièce d'à côté, elle apercevait, transpercée de balles, l'homme qui lui avait sectionné le doigt. Le noir l'entraîna dehors, deux hommes surgirent derrière elle, donnèrent des ordres en anglais. D'après l'accent, d'ailleurs, c'était plutôt de l'américain. Le troisième russe était allongé sur le perron de la maison, face contre terre. Elle n'eut pas le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Déjà, le noir la poussait dans une espace. Les deux américains embarquèrent à l'arrière et le véhicule démarra. Elle allait parler, elle n'en eut pas le temps. Déjà, on lui enfilait une cagoule. Passer brusquement de cette pièce sombre à l'intérieur de cette voiture était inexplicable. Un instant, elle avait cru que c'était la police qui venait la délivrer, mais ce n'était pas le cas. Qui étaient ces Américains? Ils n'avaient pas hésité à tuer les Russes. Où l'emmenait-il? Le trajet ne dura pas longtemps. Le véhicule ralentit. L'espace semblait rouler maintenant sur un chemin de terre. Elle stoppa net, une des portes coulissa, elle fut sortie de la voiture et entraînée à nouveau à l'intérieur d'une maison. On lui enleva sa cagoule. Face à elle, un homme de corpulence imposante, de type mexicain, la regardait en souriant. En français, avec un fort accent américain, il s'adressa à elle. « Bienvenue chez nous, mademoiselle Massillier. Le voyage n'a pas été trop pénible? Où suis-je? Qui êtes-vous? Ne soyez pas impatiente. Nous serons les meilleurs amis du monde si vous voulez bien coopérer. Coopérer? Mais oui, je ne vous demanderai pas grand-chose, simplement d'avoir l'obligeance de m'indiquer la signification de ces chiffres. En même temps, il déplia un papier où figuraient encore des lignes et des colonnes de chiffres. Il sembla à Isabelle qu'il y en avait plus que sur la feuille détenue par les Russes. Elle était abasourdie. Pourquoi ces Américains après les Russes? Je ne vous trouve pas très bavarde, mademoiselle Marcillier. Pourtant, je vous conseille de parler. La patience n'est pas ma qualité première. Je vois que nos amis Russes vous ont déjà coupé un doigt. Il en reste 9 autres à couper, si vous ne parlez pas. Et bien d'autres choses. Vous avez de bien mignonnes oreilles. À côté de nos méthodes, celles de ces moujiks vous sembleront douces. Isabelle hurla. Mais je ne sais rien. Je l'ai déjà dit aux Russes. Seul mon père sait quelque chose. Je ne doute pas que votre père connaisse la signification de ce tableau, mais il en a sans doute parlé à sa petite fille. Mon père ne me parlait jamais de ses travaux. Il savait que je ne comprenais rien à la fusion nucléaire. Qui vous parle de fusion nucléaire? Ce ne sont pas les recherches de mon père qui vous intéressent? Elles sont sûrement passionnantes, mais nous avons d'autres centres d'intérêt. En particulier, nous voulons décoder ce papier. Ce n'est pas une formule codée concernant la fusion nucléaire? Absolument pas. Il doit nous permettre de savoir où est caché l'argent d'Ernesto Brancoli. Ernesto Brancoli, qui est-ce? Ah, vous ne semblez pas au courant. Un des plus grands parrains de la mafia américaine. Il a accumulé une fortune avant la guerre par ses différents trafics. Nous savons qu'avant d'être emprisonné, il a fait cacher son magot par son avocat en Europe, plus précisément à Paris. Le Mexicain regarda Isabelle dans les yeux. Il comprit qu'elle était sincère et qu'il n'en saurait pas plus. Il se tourna vers le gangster noir, donna un ordre bref, et Isabelle fut enfermée encore dans une pièce. Cette fois-ci, le local avait une fenêtre avec de solides barreaux. On apercevait au loin des champs et des bois. À part un vieux matelas, aucun meuble dans la pièce. Une épaisse poussière prouvait que cette maison avait été longtemps inoccupée. Résignée, Isabelle s'allongea sur le matelas. Elle n'avait plus qu'à attendre. Au moins ici, il y avait la lumière du jour. De l'autre côté de la porte, le Mexicain réfléchissait. Que faire de son encombrant otage? Le liquider immédiatement? Si la fille ne savait rien, il restait le père. Les Russes étaient sans doute arrivés à la même conclusion. Le doigt coupé le prouvait. Il n'avait qu'à poursuivre dans cette direction.